FM 93. Les actualités Cogeco Nouvelles.
Le dimanche 9 mars ici, Thomas Mercier, voici les nouvelles. Tout d'abord, le Parti libéral du Canada doit tourner la page sur Justin Trudeau aujourd'hui en élisant un nouveau chef alors qu'une guerre tarifaire fait rage avec les États-Unis. L'impopularité historique de M. Trudeau l'a poussé au début du mois de janvier à démissionner du poste de premier ministre et de chef du Parti libéral. Justin Trudeau avait alors dit qu'il resterait en poste jusqu'à l'élection de son successeur. Quatre candidats s'affrontent pour son poste, soit l'ancien député Frank Bayliss, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney, l'ancienne ministre des Finances Chrystia Freeland et l'ancienne leader parlementaire des libéraux Karina Gould. Le gagnant de cette course à la chefferie devrait au courant des prochains jours prendre la tête du pays à titre de premier ou première ministre du Canada. Maintenant, le Canada a dénoncé la décision de la Chine d'imposer des droits de douane sur plusieurs produits canadiens, dont le canola, les pois, les poissons, les fruits de mer ainsi que le porc. Le gouvernement canadien rejette les conclusions de l'enquête chinoise qui a mené à l'imposition de ces nouveaux tarifs. Ottawa se dit prêt à dialoguer pour résoudre les préoccupations commerciales de la Chine. Les secteurs agricoles et de la pêche sont durement touchés par ces mesures qui vont entrer en vigueur le 20 mars prochain. La Chambre de commerce du Canada place la ville de Drummondville parmi les trois villes québécoises les plus vulnérables face aux tarifs douaniers. Pour cause, le secteur manufacturier représente 26 % de son PIB, ce qui est près du double de la moyenne de la province et plus du double de la moyenne canadienne. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond, Éric Lauzon-Duhem, espère que l'argent des contre-tarifs sera redistribué aux entreprises pour les aider à surmonter la crise.
J'ai foi que les paliers de gouvernement vont trouver des solutions qui ne seront pas des prêts parce que on l'a vécu pendant la COVID. Là, ça a donné de l'air, mais quand est venu le moment de rembourser, ça a causé d'autres soucis. Là. Il y a eu des fermetures, des pertes d'emploi, pareil, là, probablement moins. Donc, assurément que les paliers de gouvernement vont devoir trouver d'autres solutions.
À l'international, maintenant, l'Australie pourrait participer à une mission de maintien de la paix en Ukraine. Le premier ministre Anthony Albanese en a fait l'annonce au lendemain d'un entretien avec son homologue britannique Keir Starmer. Il est encore trop tôt, par contre, pour parler d'un déploiement militaire complet. Des discussions doivent avoir lieu. La France et le Royaume-Uni envisagent de leur côté une force européenne pour garantir la paix en Ukraine sous réserve d'un cessez-le-feu durable. Des incendies de forêt font rage depuis hier à Long Island, dans l'État de New York. Selon les dernières informations, un pompier aurait été blessé par les flammes. Les brasiers ont provoqué l'évacuation d'une base militaire, une fermeture d'autoroute et une déclaration d'état d'urgence par la gouverneure Katie Hochul. Une usine de produits chimiques pourrait également être évacuée prochainement et les pompiers ont décrit une bataille difficile en raison de vents forts qui propagent rapidement les flammes, ce qui rend les efforts de confinement difficiles. Des hélicoptères de la garde nationale aérienne ont été déployés pour combattre les flammes qui ne sont toujours pas maîtrisées à l'heure actuelle. Au sport, maintenant, les Flames de Calgary ont vaincu le Canadien de Montréal 1-0 hier au Scotiabank Saddle Dome. Le Canadien a eu besoin de temps pour se mettre en marche offensivement. Il n'avait que 6 tirs au but au tableau indicateur à la mi-rencontre. L'entraîneur-chef du Canadien, Martin Saint-Louis, était toutefois content de l'effort de sa troupe.
C'est une bonne game de hockey. C'était serré les deux bords. C'est une game de série. On a juste pas marqué un but. On a eu nos chances.
En terminant au soccer, le CF Montréal s'est incliné pour un troisième match de suite hier par la marque de 2-0 contre les Whitecaps de Vancouver. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Il y a de la neige présentement. Ce sera généralement nuageux pour toute la journée avec un maximum de 2 degrés. À Québec, 2 cm de neige sont attendus, maximum de moins 1. Trois-Rivières, de la neige également, maximum de 1. Et à Gatineau, de la neige, maximum de 1 degré. Et c'est au Saguenay où il y a une alternance soleil-nuage, maximum de moins 5. C'est froid, ressenti moins 23.
Cogeco Nouvelles.
Qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent.
CFIX FM 93.
Si ça fait partie de l'actualité, vous le saurez à CFIX FM 93. CFIX.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Même le week-end. Même le week-end. Avec Élisabeth Crête.
Il est 8h05, vous écoutez même le week-end. On est avec vous jusqu'à 11h ce matin et nous aurons un club du dimanche plus tard et on vous annonce tout de suite notre invité au grand bonheur de toute l'équipe, mais surtout de Jérémy Rainville. C'est François Pérusse qui est avec nous, vraiment. Alors écoute, on a hâte de le recevoir, ça fait des semaines Jérémy, qu'on en parle.
T'as-tu un lien?
Non, j'adore. Puis j'écœure tout le monde à la maison avec ses albums.
Oui, ça, tout le monde. Ils même les albums.
J'ai tout.
Alors François Pérusse sera avec nous plus tard pour le club du dimanche. Sinon, qu'est-ce qui nous attend dans la prochaine heure? On va rejoindre dans quelques instants notre collègue journaliste Karl Marchand qui va couvrir la course à la chefferie du Parti libéral du Canada qui se termine ce soir. Alors, il va être sur place à Ottawa. On va lui parler dans quelques instants pour connaître un peu le déroulement de la journée. Aussi, on va recevoir le docteur Alex Desautels qui est neurologue à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour parler des effets du changement d'heure. Vous savez que le gouvernement a entamé une grande consultation publique pour savoir si on doit cesser le changement d'heure. Le docteur Alex Desautels est d'avis que oui, on doit le cesser. Par contre, on doit garder l'heure normale. On va lui parler dans quelques instants pour ça. Philippe Léger sera avec nous. Évidemment qu'on va revenir sur la course à la chefferie du Parti libéral, le bilan de Justin Trudeau qui a été au pouvoir quand même pendant presque 10 ans. Alors, presque une décennie, ce n'est pas banal, certainement. Et Dave, de quoi tu vas nous parler?
Je vous parle de l'importance des petits gestes dans le couple. On parle souvent des grandes déclarations ou des grands voyages en couple, mais l'importance des petits
gestes du quotidien. Ouais. Merci beaucoup, Dave. Alors, c'est la course à la direction du Parti libéral du Canada qui a été déclenchée après l'annonce du 6 janvier 2025 par Justin Trudeau qui avait annoncé alors son intention de quitter ses fonctions de premier ministre et de chef du parti politique qui va se terminer ce soir. C'est ce soir donc qu'on va connaître les résultats. On sait que Mark Carney est le candidat favori. Donc une victoire des autres candidats, de un des autres candidats, ce serait très surprenant. Grosse journée qui attend les militants du Parti libéral du Canada. Notre collègue Karl Marchand va couvrir les événements à Ottawa. On lui parle à l'instant. Il est journaliste et recherchiste chez Cogeco. Salut, Karl.
Bonjour, Elisabeth.
D'abord, comment doit se dérouler la journée aujourd'hui?
Bien, on va avoir les résultats entre 5 et 7 heures. C'est un 5 à 7 à Ottawa que le PLC nous offre aujourd'hui. Puis évidemment, si tout va bien, on devrait avoir les résultats finaux un peu avant 19 heures ce soir. Mais au programme de la journée, quand même, on va faire l'arrivée des candidats sur la grande scène du Centre Rogers à Ottawa. Et Justin Trudeau va pouvoir s'adresser à la foule, faire un discours d'adieu comme premier ministre. Et on va sortir un autre premier ministre, Jean Chrétien, qui lui a été à la tête du pays, on se rappelle, de 93 à 2003. Donc, va venir s'adresser aux troupes libérales pour, disons, les fouetter et les motiver. Et si tout se passe bien, parce que des fois, les votes sont compilés en ligne avec des logiciels, alors ça peut connaître des ratés, mais si tout se passe bien, à 19h, on aura les résultats de cette course qui a été, ma foi, très courte, évidemment.
Et selon toute vraisemblance, c'est Mark Carney qui devrait remporter la course.
Il est à 43% environ d'appui, le Mark Carney, devant Chrystia Freeland, l'ancienne ministre des Finances. Puis les deux autres candidats, Karine Gould, la leader du gouvernement, suit. Et Frank Bailey, qui est un ancien député et homme d'affaires de Montréal, il va clore la marche. Donc, selon toute vraisemblance, on s'attend à ce que Mark Carney gagne la course. Ça ferait de lui un premier ministre non élu. C'est quand même particulier, mais il serait pas le premier. John Turner, ancien chef libéral aussi, qui avait été défait par Brian Mulroney, avait été dans la même situation. On a souvent comparer Mark Carney à Michael Ignatieff de par leur style intellectuel. Ben écoutez, Michael Ignatieff était lui député lorsqu'il avait été élu chef du Parti libéral, mais plus loin, là, on se rappelle peut-être de John Turner, mais les plus vieux là, d'entre nous. Mais l'autre avant, Mackenzie King avait déjà été aussi premier ministre à quelques reprises sans être élu. Puis je t'indique également, Elisabeth, que oui, le nouveau chef ou la nouvelle chef va s'adresser à la foule, mais il n'y a pas de conférence de presse qui est prévue après cette nomination-là. Donc, on veut contrôler le message, évidemment, du côté des libéraux. Puis, la prochaine question qui demeure, c'est quand serons-nous en élection? Ouais. Parce que, évidemment, si c'est Mark Carney, aller se chercher une légitimité politique avec un mandat pourrait être une de ses priorités. Mais évidemment, nous allons aller en élection au Canada plus tôt que tard cette année.
Oui, d'après moi, ça va être quelque part dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Karl Marchand.
On n'a peut-être pas fini de pelleter encore.
C'est vrai, effectivement. Salut, Karl. Bonne journée.
Au revoir.
T'as Karl Marchand, journaliste et recherchiste chez Cogeco. Vous êtes tous réveillés ce matin avec une heure de sommeil en moins. On est officiellement passé à l'heure d'été. Et comme à chaque changement d'heure, de nombreux experts nous mettent en garde contre le manque de sommeil et ses effets sur la santé. Le débat sur le changement d'heure, ça fait des années qu'on le fait. Et le gouvernement de la CAQ a finalement décidé à l'automne dernier de lancer une consultation publique sur le sujet. C'est le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui en était responsable. Et il a partagé certains résultats hier. D'abord, 91 % des répondants souhaitent abolir le changement d'heure. Et parmi ceux-ci, 72 % souhaitent conserver l'heure d'été. On parle des conséquences du changement d'heure ce matin avec le docteur Alex Desautels. Il est neurologue à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et directeur du Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Docteur Desautels, bonjour.
Bonjour, Mme Crête.
D'abord, on dit souvent que les parents de jeunes enfants sont ceux qui subissent réellement les conséquences du changement d'heure, que pour les autres, c'est pas si grave que ça. Quel groupe de la population, selon vous, sont les plus à risque d'avoir des effets néfastes du changement d'heure?
Bien, l'ensemble de la population est à risque. Évidemment, les travailleurs sont plus à risque parce que ils sont plus contraints à un horaire de sommeil et en général, c'est le lundi que ça frappe. Le dimanche, on fait le changement d'heure toujours le samedi. Le dimanche, on est moins contraint à un horaire fixe. Et c'est le lundi où ça frappe, où notre horloge biologique va avoir tendance à se réveiller comme nous, par exemple, une heure plus tard. Mais le réveil matin va sonner une heure plus tôt. Et c'est là, en fait, qu'on a une heure de sommeil ou à peu près qui va être amputée. Alors, je dirais que c'est les gens qui ont un horaire fixe qui doivent se lever à une heure précise le lundi matin.
Parce que ça, en fait, les gens qui sont pas d'accord avec le fait que ça a des effets néfastes sur la santé, eux, ce qu'ils disent, vous avez juste à vous coucher une heure plus tôt, puis le problème est réglé. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de s'endormir une heure plus tôt, là. C'est ça l'affaire.
En fait, il y a deux choses. Effectivement, il y a une privation aiguë de sommeil. Hein. On va imposer à notre corps une heure de moins de sommeil, comme un décalage horaire imposé dès le changement d'heure. Mais le problème du changement d'heure, c'est bien au-delà du changement lui-même, hein, de la journée où on change le sommeil. Par exemple, l'heure avancée en été, ça, c'est problématique. Et on n'est pas les seuls au Québec et au Canada à dire ça. Toutes les associations médicales qui s'intéressent au sommeil partout dans le monde disent depuis des années que le changement d'heure est pas bon pour la santé. La raison, c'est pas tant qu'on va perdre une heure de sommeil comme en fin de semaine, c'est plutôt l'illumination ou la luminosité qui va persister l'été longtemps. Par exemple, durant l'heure avancée au Québec, en général, ça dépend des régions évidemment, mais en général, l'été, il va faire clair jusqu'à 21 heures. Et le matin, à l'heure avancée, le soleil va se réveiller à autour de 5h30. Le problème avec ça, c'est que on est déjà en privation de sommeil chronique d'ensemble de la population. On dort à peu près là, 1 heure à 1h30 de moins que les gens d'il y a à peu près 30 ans. Okay. Et donc là, si le soleil se couche à 21h30, ben, c'est difficile d'aller au lit vers 10h, et là, ben, on se réveille le matin pour aller travailler, et ça augmente cette privation de sommeil, là. C'est ça le problème.
Et je reviens là-dessus dans quelques instants, docteur Desautels, parce que c'est vraiment important. Je sais que vous êtes pour le fait d'arrêter de changer l'heure, mais de conserver l'heure normale, mais juste avant. Pourquoi, selon vous, la société d'aujourd'hui a autant de problèmes de sommeil?
Aïe, aïe, aïe. Ben, il y a plusieurs problèmes de sommeil. Un des problèmes de sommeil qu'on voit souvent en termes de société, je dirais, là, c'est que on est une société hyper branchée où tout doit être fait rapidement, une société de performance, et les limites entre, par exemple, le travail et la vie personnelle sont maintenant floues. On est branché constamment, on reçoit des textos la fin de semaine, le soir. Et de se débrancher, ça devient difficile, et ça occasionne des éveils qui sont plus précoces, des couchers qui sont plus tardifs, de l'insomnie. Et ça, c'est sans parler de l'apnée du sommeil qui est aussi sous-diagnostiquée. Donc, je pense que en tant que société, on n'accorde pas au sommeil la place qui devrait lui revenir, comme par exemple l'activité physique et la nutrition. On sait que quand on manque de sommeil de façon chronique, on augmente nos chances d'avoir différents types de cancers. On augmente nos chances d'avoir différents types de démences. on augmente les chances d'avoir des maladies comme le diabète, l'obésité, les problèmes de cholestérol. Alors, c'est quelque chose qui qu'on doit remettre au goût du jour et le sommeil doit revêtir la même importance que la nutrition, par exemple, ou l'activité sportive.
C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, une des choses qu'il faudrait faire d'abord, c'est peut-être de couper les écrans et les connexions quelques heures avant le dodo, là.
Ouais, surtout les écrans bleus, comme les écrans de téléphone, les écrans de tablette,